VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine et internationale. Ici à Washington, le président Donald Trump tentera d'obtenir ce vendredi l'abrogation de l'Obamacare, le programme d'assurance santé de son prédécesseur Barack Obama, en soumettant le projet de loi en ce sens au vote de la Chambre des représentants du Congrès. Mais le soutien des membres de son propre parti républicain au plan d'abrogation reste incertain. Jean-Roger Bion.
Donald Trump n'a pas réussi jeudi à convaincre suffisamment de républicains contraignant la Chambre des représentants à différer hier son vote. Les républicains les plus conservateurs, affiliés au Freedom Caucus, estiment que le nouveau texte ne diffère pas assez de l'Obamacare, tandis que les modérés craignent à l'inverse que la proposition de loi ne revienne à accroître le nombre d'Américains sans couverture maladie. Mais le directeur du budget de la Maison-Blanche a déclaré jeudi soir, lors d'une réunion des républicains de la Chambre, que le président avait fini les négociations et voulait un vote vendredi, selon le représentant de New York, Chris Collins, proche allié de Trump. Le président a dit qu'il voulait un vote pour ou contre, a fait savoir à Chris Collins. Si pour une quelconque raison c'est contre, nous allons continuer à avancer sur d'autres parties de son programme, comme des réformes fiscales, a-t-il ajouté, et Obamacare restera en place. À l'issue d'une réunion au Congrès entre responsables de la Maison-Blanche et dirigeants de la Chambre, des députés ont confirmé à des journalistes que le vote aurait lieu aujourd'hui. Selon le représentant Mark Meadows, président du groupe conservateur Freedom Caucus, des amendements de dernière minute sont à l'étude, mais le soutien nécessaire à l'adoption du projet reste incertain. « Je reste optimiste quant à la conclusion d'un accord », a-t-il cependant déclaré.
Attentat de Londres, la police britannique a procédé à de nouvelles arrestations importantes dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'enquête sur l'attaque. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef de la police antiterroriste Mark Rowley. Cela porte à 9 le nombre de personnes en garde à vue, a-t-il précisé, 2 jours après l'attentat qui a fait 4 morts. Mark Rowley a donné le nom de naissance de l'auteur de l'attaque comme étant Adrian Russell, un Anglais né dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. Selon les médias britanniques, il s'est converti à l'islam et aurait séjourné en Arabie Saoudite au milieu des années 2000, période au cours de laquelle il se serait radicalisé. En France, le président François Hollande a dénoncé ce vendredi le manque de dignité et de responsabilité du candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, qui a accusé le chef de l'État d'organiser des fuites le visant dans la presse. « Je ne veux pas rentrer dans le débat électoral, je ne suis pas candidat », a déclaré le président Hollande, « mais il y a une dignité et une responsabilité à respecter. Je pense que M. Fillon est au-delà maintenant, ou en deçà ». A souligné le chef de l'État français à la Radio France Info.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Violence en RDC à la haie. Les juges de la Cour pénale internationale, la CPI, ont attribué pour la première fois ce vendredi des réparations monétaires à des victimes de crimes de guerre en allouant $250 symboliques à chacune des 297 victimes d'un massacre dans un village congolais en 2003. Les juges ont également estimé que le chef de guerre congolais Germain Katanga, condamné en 2014 à 12 ans de détention pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, est personnellement responsable du paiement d'un million de dollars pour réparer des dommages estimés à plus de 3 millions. Mais ils ont aussi admis l'indigence de cet ancien leader militaire de 38 ans. Violence en RDC toujours, les enquêteurs de l'ONU déployés dans la région du Kasaï estiment à près de 17 le nombre de fosses communes liées aux violences entre miliciens Kamuina Nsapu et forces de sécurité, selon le sous-secrétaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Andrew Gilmore. Paul Nsapu, le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits de l'homme pour l'Afrique, parle de véritables horreurs. On l'écoute.
C'est une parodie d'enquête, des mises en scène, puisque le gouvernement congolais, le régime actuel, n'a jamais fait aboutir ces annonces d'enquête. Souvenez-vous qu'il y a eu le charnier de Maluku, il y a quelque temps. Le gouvernement avait promis qu'une enquête allait s'ouvrir et qu'on aurait des résultats jusqu'aujourd'hui. L'enquête n'a pas abouti. Et aujourd'hui, on découvre malheureusement qu'il y a pas moins de 13 fosses communes autour de Kananga et dans le terrain où il y a y a des opérations de ratissage par les éléments de l'armée, infiltrés par les éléments de la garde républicaine, et même des miliciens, certains miliciens qui coopèrent avec le régime. Il y a vraiment une horreur. Pas moins de 500 personnes qui ont été exécutées.
Paul Nsapu, le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits de l'homme pour l'Afrique, lors de son passage à Washington. En République centrafricaine, beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Selon un rapport publié par Human Rights Watch, ces enfants sont incapables de le faire en raison de la présence de groupes armés. Louis Mudge, chercheur de la division Afrique à Human Rights Watch, nous situe sur l'ampleur du phénomène.
Il y a des écoles qui sont toujours occupées par des groupes armés. Donc, leur présence dans l'école empêche les étudiants d'y aller. Deuxième raison, c'est la proximité de le combattant d'une école. Donc, même si des combattants, le groupe armé, même s'ils ont quitté le zone scolaire, ils sont tout près. Donc, ils empêchent des étudiants et des enseignants d'y aller. Et troisième raison, c'est que nous avons documenté plusieurs écoles qui étaient détruites, qui étaient affectées par les groupes armés dans ce cadre-là. Donc, vous avez des combattants qui ont brûlé les tables bancs, qui ont brûlé des livres scolaires, qui ont détruit les tôles. La zone principale, c'est la province de Wam. Donc, ça, c'est nord-est de Bosangoa, la province de Namagribizi, où se trouve la ville de Kagabandoro et Mbré, et la province de la Waka, où se trouve le groupe de Seleka, le UPC, le groupe de Ali Darassa, et eux-mêmes, ils sont en train d'occuper les écoles.
Louis Mudge, chercheur de la division Afrique à Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, l'Assemblée nationale béninoise se réunit ce vendredi en session extraordinaire pour statuer sur le projet de révision de la Constitution qui prévoit notamment un mandat présidentiel unique. C'est ce qu'a annoncé le président Patrice Talon hier soir. Ce projet de modification de la Constitution, l'un des arguments de campagne de Patrice Talon, prévoit non seulement une discrimination positive en faveur des femmes dans le monde politique et un financement public des partis, mais également la mise en place de mandats présidentiels uniques, une mesure historique sur le continent africain et qui suscite la controverse. Au Burkina Faso, on a appris hier la mort de certains Haruna Diko, un présumé terroriste qui aurait perpétré plusieurs attaques dans le nord du pays. 18 personnes ont été interpellées. Ibrahim Maïga est un journaliste qui connaît bien la région du Sahel burkinabé. Bagassi Koura lui a demandé s'il y a un lien de parenté entre Haruna Diko et Ibrahim Malam Diko, le chef du groupe djihadiste Ansar ou l'Islam qui opère dans le nord du Burkina.
Le nom de famille Diko, ce n'est pas forcément un lien de parenté direct, mais tout le monde est parenté.
Alors, on parle de l'arrestation de 18 autres personnes. À votre avis, c'est un gros coup pour les forces de l'ordre burkinabé?
Nous attendons de voir ce que ça va donner, parce que si tel est le cas, comme ils le disent, ça fait quelques éléments nuisibles de moins.
On a vu que les fonctionnaires, notamment les enseignants, sont en train de quitter la région du Nord. Est-ce que ces groupes djihadistes, on peut les comparer un peu à Boko Haram?
C'est ça l'idéologie des groupes terroristes qui sévissent dans la zone. Ils disent que l'éducation du type classique, l'éducation du type occidental est une valeur qui est contraire aux valeurs de l'islam qu'ils prônent. Donc pour cette raison, pour eux c'est le minimum de s'en prendre à tout ce qui symbolise cette éducation-là.
Et qui est Malam Diko, le chef d'Ansar ou-l'Islam?
Malam Diko était natif de la zone du Soum et de la province du Soum.
Dans l'extrême nord du Burkina.
Qui a vécu là-bas pendant un temps, qui a eu à faire des études coraniques un peu au Mali. Et il fut un disciple de Amadou Koufa. Après, il a séjourné au Niger où il a poursuivi ses études coraniques avant de revenir encore dans la zone et fonder son association. Et l'association qu'il a utilisée pour se faire un nom, pour essayer de prêcher son idéologie et se faire des disciples pendant des années. Entre-temps, la radio locale au niveau de Gibo lui servait de voix pour partager sa vision avec les gens. Et avant d'essayer de rejoindre les djihadistes au nord Mali, là, il avait été arrêté par les forces armées françaises. Il était en possession d'une arme et livré aux autorités maliennes qui l'ont gardé en prison pendant 2 années. Après avoir purgé cette peine, il est revenu au Burkina tranquillement pour suivre ses activités.
Ibrahim Maïga, un journaliste joint ici aux États-Unis. Et pour terminer, en Égypte, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak est désormais libre. Il a quitté l'hôpital militaire du Caire, dans le Caire. Il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. C'est ce qu'annonce son avocat Farid El Dib.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.